Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du jour. On est en train d'enregistrer aujourd'hui avec Ninon. Je suis trop content d'être avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu ?
Je vais très bien, merci. Je suis très content d'être là aussi.
Eh bien écoute, je pense qu'on va passer un super moment. En plus, je t'avoue que hier soir, j'ai passé du temps à regarder nos deux fils respectifs et je me suis dit, lequel des deux gagnerait la Coupe du Monde des plus jolies bouclettes blondes ? Et je crois qu'il y a ex-aequo.
Toi aussi, t'as un frisé.
Exactement, un frisé avec des cheveux d'ange. Je te montrerai des petites photos après. Mais vraiment, quand j'ai vu des photos de ton fils, je me suis dit, waouh, mais ils sont sosies.
C'est vrai que ça, c'est un grand mystère, quoi. Il est frisé, je sais pas, il est blond frisé, je suis brune, les cheveux raides, tout va bien.
Moi, ça se comprend, il a pris le côté frisé de sa maman et la couleur du papa, donc c'est à peu près rassurant et logique. Mais je sais pas, est-ce que toi, on te dit encore dans la rue, genre, votre enfant, il est somptueux? Moi, j'ai peur qu'on me le kidnappe, tu vois.
Ouais, moi, apparemment, en plus, il a les yeux tout bleus, donc ouais, il plaît bien. Alors, moi, je pense que j'ai... aucune objectivité puisque je suis sa mère, je le trouve magnifique, mais quand les gens me le disent, je me dis bon bah il doit pas être si moche quand même.
Ok, bon bah écoute, trop cool, on aura l'occasion effectivement de parler un peu parentalité. Aujourd'hui on est à Clermont pour les All-Star Perche, on va parler aussi effectivement un petit peu de la compétition, de la saison, mais comme je te l'ai dit, j'aime bien commencer par l'enfance, savoir un petit peu qui tu étais quand tu étais plus jeune, et la première question que je pose à tous les invités, c'est savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Ben moi, c'est vrai que je sais même pas à quand il remonte ce souvenir-là, parce qu'en fait, j'ai baigné dans le sport. Moi, je suis fille de prof de PS et des gens qui étaient passionnés de sport. Ma mère, c'était une gymnaste et mon papa était rugbyman. Donc, c'est vrai que c'était sport à la maison, c'était sport au stade, à l'entraînement, le week-end pour encourager mon papa. Donc, c'est vrai que le sport, c'était partout et tout le temps. Donc, je dirais que j'ai pas de souvenir particulier parce que dans mon enfance, il y avait du sport tout le temps, quoi.
Ouais, ok. T'as commencé par quoi ?
Eh ben moi, j'ai commencé par la gym. En fait, j'ai fait de la baby gym dès que j'ai eu 3 ans.
Ça, c'est vraiment un truc de parents de prof de PS, quoi, baby gym.
C'est ça, tu vas faire de la baby gym. Bon, ma mère était gymnaste, donc je pense qu'ils étaient quand même... ils étaient orientés vers ça aussi parce qu'ils connaissaient. Et c'est vrai que j'ai fait de la gym pendant super longtemps. J'ai arrêté à 10 ans. Pour l'athlétisme justement, et dans cette période j'ai fait tout un tas de trucs. Je faisais déjà des crosses avec le collège, je faisais du badminton, j'ai fait de l'escalade, du rugby, Voilà, donc j'ai fait tout un tas de sports vraiment avant de me spécialiser dans l'athlétisme.
Ok. S'il y avait un autre sport à part la perche, dans lequel tu aurais aimé faire une carrière de haut niveau, est-ce que vu que tu as goûté un petit peu à tout, quel sport t'aurais choisi ?
Je crois que j'aurais adoré faire du rugby.
Ok.
Vraiment. Franchement, je me suis éclatée à faire du rugby en UNSS. C'était des moments que je partageais avec mon papa, donc ça avait beaucoup d'importance pour moi. Et puis en fait, je sais pas, quand je suis sur un terrain de rugby, je suis complètement ma boule, j'ai peur de rien, je me jette partout. C'est peut-être cette folie-là que j'ai gardée en fait en faisant de la perche. J'ai trouvé une discipline dans laquelle je pouvais me jeter, où il faut pas avoir peur, où il faut vraiment s'engager comme un ouf. C'est ça que j'aime au rugby, j'ai plaqué des mecs en staps parce que j'ai fait staps et j'ai fait du rugby, mais des fois je sautais dans les jambes de gars et je me disais mais t'es complètement folle, je fais 1m63, 53 kilos et je sautais sur des mecs qui faisaient 1m80, mais comme j'allais vite et que j'avais pas du tout peur de l'impact et de ça, et puis comme je savais jouer un peu au rugby, je me plaçais correctement, donc c'est vrai que je crois que ça c'est vraiment le truc que j'aurais fait.
Ok, en demi-mêlée du coup peut-être, ou à l'aile pour...
Ouais, plutôt plus de peau, petit gab, ouais. Peut-être à l'aile, je pense que ça m'aurait fait marrer d'intercepter la balle avec un peu de vitesse comme ça, ouais.
Je t'imagine, là, à côté de Lénaïque Corson, que j'avais rencontré et que j'apprécie beaucoup, effectivement, vous n'avez pas le même gabarit, tu vois, je me dis, vous entendriez bien, je pense, donc, hyper intéressant et hyper original, quoi, le rugby...
Ouais, on s'y attend pas en voyant, c'est pas le premier truc qu'on se dit.
Du coup, fille de parents prof de PS, tu touches à tout au sport, un petit peu casse-cou aussi, du coup, j'entends... Dans la partie non sportive, derrière les cahiers, sur la chaise, comment ça se passait en classe ?
Alors moi, j'étais première de la classe, déléguée tous les ans, élue à l'unanimité, vote même pas truqué. Non, je pense que j'étais la bonne copine parce que sportive, donc quand même copine avec les couillons de la classe.
Ok, on aurait été potes alors.
Tête d'ange, donc je me faisais pas engueuler. J'avais le bon rôle, mais c'était important pour moi d'être une excellente élève et d'avoir toujours tout bon. Et je pense que j'ai été première de ma classe jusqu'en, je sais pas, peut-être première, parce qu'après, ça s'est corsé en maths et en physique. Et là, c'était vraiment la galère. Mais jusque-là, c'est vrai que ouais, j'ai été une excellente élève.
Ok, t'as fait S ?
Ouais.
Maths et physique,
c'est ça.
Sans le petit traumatisme.
Ouais. J'étais plutôt bonne partout. Je pense que j'ai jamais eu trop de difficultés, mais en plus, je bossais. J'étais sérieuse. Et puis, comme j'ai tout le temps fait pas mal de sport, il fallait que je m'organise aussi, puisque même quand je faisais de la gym, c'était 4 fois par semaine. J'étais petite, mais c'était 4 fois par semaine. Donc, j'ai tout le temps géré pas mal de trucs en même temps. Je faisais de la musique, je faisais... Donc finalement, toute ma vie, je me suis organisée. Donc mes devoirs, ils étaient faits à tel moment. Donc je pense que ça a fait aussi que j'ai été super rigoureuse, le fait de faire du sport... en plus de ma vie, parce que pour gérer le sport, il fallait que mes devoirs soient faits. Et puis avec des parents sportifs, la punition, c'était jamais le sport. J'étais jamais punie de pas aller à l'entraînement, par exemple. C'était, non, par contre, t'as fait tes devoirs et puis on va à l'entraînement, quoi. Donc finalement, j'ai toujours eu ce truc-là aussi de... Bon, tout est fait, donc je suis peinard et je peux faire ce que je veux.
Ok. Ouais, mais c'est vrai que ça, tu vois, moi, c'est un truc que j'ai mal vécu à l'école. J'aimais pas trop l'école et que j'étais assez doué. Et du coup, je faisais le minimum possible pour avoir entre 10 et 12 et passer. Mais sinon, j'étais l'hyperactif qui cassait les pieds aux profs et qui copiait sur un délégué. Je l'avoue.
Moi, je laissais les autres me copier dessus. Ça va, c'est pour ça que j'étais... qui m'aimait bien, mes potes.
Moi, j'achetais des gâteaux. Je soudoyais.
Oh punaise, ça, c'est moche.
Je l'avoue. Clairement. Mais tu vois, c'est un truc que j'ai mal vécu avec les profs. C'est qu'ils comprenaient pas que... Bon, certes, j'étais un peu feignant, mais que si j'avais aussi 10-12, c'est que je faisais beaucoup de choses à côté et que rien que le fait de réussir à m'organiser et de faire toujours mes devoirs et d'avoir cette régularité, d'avoir entre 10 et 12, c'était déjà un superbe exploit et c'était quand même une belle qualité tu vois, d'élève, quoi. Donc moi, je l'ai mal vécu en tout cas. Mais toi, t'as l'air d'avoir surfé sur tout.
Ouais, moi, j'ai vraiment tout le temps aimé l'école et puis j'avais des parents profs et moi, j'ai tout le temps joué à la maîtresse. En fait, je suis l'aînée de 3 enfants. J'ai 2 petits frères qui ont beaucoup joué à l'école, qui ont fait beaucoup de dictées à la maison et qui ont fait beaucoup d'exercices. Et je m'en excuse aujourd'hui auprès d'eux. Mais donc, j'ai beaucoup joué à faire la maîtresse et j'ai toujours aimé l'école, quoi. Donc, c'est vrai que c'était pas non plus un effort pour moi que de bien faire à l'école, puisque c'était un plaisir pour moi d'y aller, quoi.
Ouais. Et donc, aujourd'hui, encore.
Ouais. Moi, j'ai fait des études pour être prof des écoles, que j'ai arrêté parce que c'est le moment aussi où ça a décollé dans ma carrière et c'est un moment où je changeais de structure d'entraînement, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et donc, du coup, j'ai pas passé le concours, mais je suis allée jusqu'en master 1 pour être prof des écoles, master MEF, premier degré. Et voilà, et c'est vrai que je me suis éclatée dans mes études et je pense que j'ai vraiment la fibre pour ça. J'adore les enfants, j'adore transmettre, enseigner. Et c'est vrai que, enfin voilà, je sais pas, je pense que c'est un, je pense qu'on a tous pas des dons, mais il y a des trucs pour lesquels on est fait. Et moi, je pense que clairement, je suis faite pour ça, quoi.
Ouais, ok. Comment est-ce que tu le sens au-delà de t'aimes les enfants, t'aimes enseigner, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres qualités justement qui te font dire que t'es faite pour ça ?
Bah, je sais pas, j'ai toujours eu un truc avec les enfants. Les enfants viennent toujours vers moi. Les entraîneurs là que je croise, ils me disent toujours bon bah il y a mes enfants qui te passent le bonjour, parce qu'en fait j'ai joué avec les gamins de tout le monde. Je sais pas, je sais pas si c'est ma tête, ils me trouvent, je sais pas, ils me trouvent marrante ou je sais pas. Mais il y a, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et puis enfin j'aime les gens en général. J'aime, c'est pour ça que c'est super sympa pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui, parce que enfin j'aime vraiment partager avec les autres. Et je pense que les enfants, ils sont vachement sensibles à ça et qu'ils sentent aussi quand on est intéressé par eux. Quand je demande à un gamin bon qu'est-ce que t'as fait alors, mais je m'intéresse vraiment à lui en fait. C'est pas juste bon tiens on va le faire parler parce que là il s'ennuie, il est à table avec nous. Vraiment
c'est sincère.
Voilà.
Ok.
Et je pense que ce truc là je l'ai en moi et je l'ai depuis toujours. Mais voilà, ayant des parents qui étaient dans ce milieu là je pense que nous quand on était enfant on nous a aussi vachement mis au cœur du truc. On était vachement au centre des préoccupations, on racontait nos journées d'école. Et du coup, je sais pas, moi, mon rapport aux enfants, il est comme ça, quoi.
Ok. Bon, bah écoute, c'est trop chouette. Moi, ça n'a pas été naturel tout de suite. C'est venu après, quoi. C'était,
Ouais, en ayant tes enfants.
Ouais, exactement. Mais sinon, avant, c'était m'occuper des enfants des autres. Quoi ? Hors de question. Je m'en cache pas, hein, tu vois.
Mais c'est vrai que ça, c'est chacun, hein, chacun son truc, quoi.
Ouais, c'est clair. Comment est-ce que tu découvres la perche ? Parce que c'est... Bon, déjà, le rugby, tu me surprends.
Et pourtant, j'ai passé énormément d'heures au bord des terrains de rugby. Hein.
Comment est-ce qu'on tombe dans la perche et surtout, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport ?
Quand j'ai arrêté la gym, je faisais la course, en fait, dans la cour avec les garçons que je battais. Donc, moi, je sais pas, quand j'ai arrêté, j'avais qu'une envie, c'était de me mettre à l'athlétisme parce que je voulais faire la course. Donc, en CM2, je débute l'athlétisme. Et puis en athlée, on teste tout en fait au début. Les gamins, ils sont pas spécialisés directement. Donc tu fais de la hauteur, tu fais de la longueur, tu fais du sprint, tu fais du lancer.
Le triathlon de l'athlée avec le lancer.
Tu fais du lancer, donc qui n'a pas du tout été une révélation pour moi. Hein. Je préfère le préciser dès maintenant. Il n'y avait aucun avenir pour moi à ce niveau-là. Et donc je fais 3 ans d'athlée et puis je rencontre Agnès Livre-Bardon qui était une ancienne athlète de haut niveau. Elle a fait 4m40, elle était auvergnate d'ailleurs.
Okay.
Tant qu'elle avait le bénéfice de son statut de sportive, elle pouvait rester sur l'académie de Clermont. Et dès qu'elle a plus eu le statut, elle a bougé et donc elle est venue à côté de Bourges. Elle a eu un poste proche de Bourges où moi j'ai grandi, en plein milieu de la France.
Okay.
Et en fait Agnès, elle continue à sauter un peu pour se faire plaisir et elle s'est mis en tête de faire de l'initiation pour les jeunes des clubs alentours en fait. Elle n'était pas dans le même club que moi, mais elle a fait faire de l'initiation aux gamins et je faisais partie de ces gamins. Et en fait bah, ça a matché direct. Donc en fait j'ai commencé en fin de 5e, j'avais 12 ans, presque 13 ans je crois d'ailleurs en 5e. Et en fait, comme je courais vite et que j'avais fait de la gym, j'ai très très vite senti le truc et très rapidement en fait j'étais dans les bonnes perchistes de ma catégorie.
Okay.
Si bien que dès la 4e, quand j'ai vraiment commencé à m'entraîner, parce que là, avant, voilà, c'était pour essayer, j'avais fait une ou deux compètes. L'année qui a suivi, j'étais première ou deuxième française de ma catégorie en minime, quoi. Donc là, on se dit, bon, bah, y a un truc. Déjà, c'est cool, ça me plaît, il y a tout ce qu'il faut pour faire des trucs sympas. Et puis, bah, en fait, pris par le truc, on continue, quoi. Et donc, mon triathlon, il y avait de la perche qui faisait vachement de points. Donc, je faisais perche longueur et je faisais du 200 mètres haies, je crois que ça existait. Et en fait, j'avais un triathlon béton parce que les sauts, ça fait des points, les haies, ça faisait des points. Et je me suis retrouvée aux les points d'or. C'était les championnats de France des jeunes. Et où, cette année-là, je finis 9e. Donc, c'était quand même vachement bien d'être 9e de toute la France sur ce triathlon. Et en découvrant la perche. Et je crois que je termine 2e du concours de perche avec un truc genre 3m30, enfin... Voilà. Et là, ça fait un an que je fais de la perche et je saute 3m30, quoi. Donc, c'était plutôt très cool, quoi. Et donc, après, je ne me suis pas posé la question et j'ai continué la perche, quoi.
Tu te souviens des émotions, des sensations que tu as sur tes premiers sauts ? Est-ce que, justement, c'est le plaisir d'être en l'air et d'avoir un peu cet instant hors du temps où, tu sais, quand t'es un téléspectateur, tu vois, t'as un peu l'impression que c'est un tour de magie qui se passe au-dessus de la barre, tu vois. Et on a l'impression que le temps s'arrête. On arrive à le voir visuellement et à ressentir un peu ce que vous ressentez, mais toi, qu'est-ce qui te plaît, tu vois, c'est cet engagement, le fait qu'il faille mettre un peu la tête de côté et les peurs, c'est cette adrénaline, qu'est-ce qui te...
Bah, ce truc-là, je ne l'ai pas ressenti dès le début parce que, enfin, tu vois, j'entraîne aussi des jeunes et c'est ça qui est compliqué. Les jeunes qui commencent le saut à la perche, comme tu dis, ils décrivent ce truc-là.
Ouais.
C'est ce truc-là qu'ils veulent faire. Sauf que quand tu commences la perche, c'est pas ce truc-là que tu fais.
Ouais.
Tu montes juste sur le tapis, tu fais des petits exercices. Le fait de plier une perche qui te renvoie, qui t'éjecte, tout ça, il faut quand même un petit temps, en fait, pour que ce truc-là existe.
Ouais, bien sûr.
Mais cette sensation-là, tu peux quand même l'avoir à tous les niveaux. Parce que dès l'instant que tu sautes et que tu franchis la barre, finalement, franchir la barre, ça crée des émotions parce que tu es fier de toi, parce que tu t'es engagé, comme tu dis. Mais plus le truc avance, plus il y a d'engagement, plus tu utilises de perches, plus la dimension, elle augmente et donc plus tu as de sensations. Mais du coup, sur le tout début, je ne crois pas que j'ai ce souvenir de sensations. Mais par contre, j'ai le souvenir de m'être éclaté. Parce que je n'aurais pas continué si je ne m'éclatais pas. Parce que vraiment, ça, c'est vraiment ce qui me pousse, c'est aimer ce que je fais et m'éclater dans un domaine. Et là, j'avais vraiment trouvé le truc qui me permettait de me dépasser et de m'amuser, quoi.
Mais c'est dingue. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Galfion, Romain Ménil, Renaud, du coup, ce matin, toi, maintenant, tu vois. Et j'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer d'autres perchistes. Mais à chaque fois, on sent cette passion, quand même. C'est un sport, j'ai l'impression que tu peux pas le pratiquer si t'es pas mordu, si t'as pas été piqué par le moustique, tu peux pas en faire, quoi.
Mais je pense que c'est le cas un peu de chaque sportif. Tu mets une telle implication dans ta pratique que tu peux pas.
Ouais, je sais pas. Tu vois, j'ai rencontré Florent Manaudou, il me dit j'aime pas nager, quoi. Enfin, il te dit pas j'aime pas nager, mais il te dit.
Ouais, mais c'est dur.
Mais
nous, je pense que je nous rapprocherais du sport freestyle un peu. Il y a vraiment un risque quand on fait ce qu'on fait. Tu peux te prendre des vraies belles gamelles, tu peux te blesser, tu peux... En plus, il y a une espèce de collaboration entre les athlètes parce que c'est difficile. Tu peux partir en compète sans ton coach et il y aura toujours un coach pour t'aider parce que justement, cette dimension à risque fait qu'il y a une vraie entraide, il y a une... C'est très particulier. Et du coup, ce truc-là fait qu'il y a une bienveillance qui existe et qui est là. Et je pense que ça rend forcément compte, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a cet enjeu, tu vois, psychologique. Si un matin, t'as pas envie de prendre ce risque d'aller sauter 4 mètres, 5 mètres, potentiellement de faire mal, tu vois, aussi, parce que des fois, ça arrive, il y a quand même des petits accidents, des petits coups, ça marche pas, quoi.
Moi, ce truc, je l'ai jamais ressenti, d'avoir peur de ça.
Ok.
Et tu vois, justement, en ayant eu un enfant... C'est une des questions qu'on m'a posées régulièrement. Est-ce que le fait d'avoir eu un bébé, ça n'a pas engendré chez toi peut-être un peu plus d'appréhension ? Parce que c'est quand même un sport dans lequel tu te balances ou pas du tout. Et en fait, j'aime tellement ça. J'aime tellement ce moment de, pas d'insécurité, mais où tu te lâches dans ton truc. Et c'est ça qui est super chouette. C'est ça qui est excitant. C'est pour ça que je fais ce sport, en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là où tu vas peut-être l'avoir, cette adrénaline-là, ce truc-là dans le rugby où tu vas te jeter ou... T'as beau avoir répété le truc, le jour de la compète, il se passe encore quelque chose d'autre. Et moi, c'est réellement ce que je ressens. Et du coup, je crois que mon cerveau, il se coupe quand je fais de la perche. C'est un moment à part. Et tu vois, tu parlais de passion. Et moi, ce que j'ai aimé en faisant de la perche, c'est que ça devenait ma passion. Tu vois, mes parents n'étant pas de ce milieu-là, c'était mon moment. Et en fait, c'est devenu ma passion. Ça l'était pas. J'ai commencé la perche, en fait, finalement, par hasard. Et c'est devenu mon sport.
Ouais, ok. Ouais, c'était un instant où aussi ta personnalité a pu se révéler.
Ouais, c'était un environnement qui était pour moi.
Ok. Tes petits frères ont jamais eu envie de te copier ?
Eh ben, si. Mon petit frère Gauvin, qui est le deuxième de la fratrie, il a fait 5m40.
Okay.
Il a fait des championnats, internationaux chez les jeunes. Il a fini 7e, je crois, des championnats du monde cadet ou junior. Je pense que je me trompe. Mais
okay.
En gros, il s'est éclaté. Lui, il faisait du rugby. Vers justement la 4e ou la 3e, il faisait rugby perche. Et à un moment, il s'est arrêté, il a fait plus que de la perche. Et là, tu vois, il vient d'arrêter la perche et il s'est remis au rugby à fond. Mais il s'est éclaté à la perche et il a eu des soucis à l'épaule, donc il a été obligé d'arrêter. Ça a été une période compliquée pour lui, pour le coup. Et le dernier, non, c'est un mordu de rugby. Il est venu sauter à la perche pour rigoler. Il saute un peu parce qu'il nous a tellement vus qu'il se débrouille pas trop mal. Mais non, il n'a jamais rangé les crampons pour mettre des pointes et prendre une perche.
Ok. Ouais, donc si je comprends bien, ici, à Clermont, c'est un peu la ville qui te convient bien, quoi, parce que ça allie vraiment les deux sports.
Bah, et puis moi, j'ai fait mes études ici. Donc j'ai un attachement particulier à Clermont, j'ai habité pendant 4 ans et donc un an avec mon frère Gauvin, on s'entraînait ensemble et on était en coloc ensemble, donc on a vécu aussi des moments super chouettes du fait qu'on partageait cette passion. Et ouais, donc clairement, j'avoue que j'allais un petit peu supporter l'ASM.
Ouais.
Parce qu'à Bourges, à la maison, nous, c'était l'ASM. Et voilà, quoi.
Ouais. C'est important d'avoir un événement comme celui-ci en France, où vous pouvez rencontrer à la fois un public de fans de perche, parce que c'est une ambiance différente que sur les championnats de France d'athlétisme, où y a aussi des spécialistes, c'est une compétition internationale. Donc, et puis aussi, des gens qui connaissent beaucoup rien, tu vois, et qui viennent ici parce que c'est à Clermont, parce que c'est l'événement. Et c'est beau. Et c'est un événement qui est important à avoir, justement pour toi, où tu peux rencontrer un peu plus le public, peut-être.
C'est vrai que on a un circuit qui s'appelle le Perche Elite Tour. Et ce système de compétition, on l'a tout l'hiver à la perche. Ça a été mis en place il y a des années par des perchistes, justement, pour regrouper les perchistes sur une même journée et de tous les niveaux. Donc, ça commence par des concours avec les jeunes et toute la journée jusqu'au soir, finalement, le concours des seniors et donc des internationaux et tout. Et ça permet vraiment de créer du lien entre les petits et les grands et surtout de donner envie aux jeunes de faire ça parce que c'est quand même très rare dans le sport de haut niveau et dans le sport en général, de croiser, que les débutants puissent croiser des grands champions le même jour.
Il y a peu de sports dans lesquels c'est possible.
Le jour de leur compétition, tu vas pas voir un match de foot et avant il y a eu un match de gamins quoi. Donc c'est vrai que ce côté-là, il y a de l'échange et je pense que nous on a vraiment un gros vivier de perchistes en France. Peut-être que ce circuit de compète permet ça aussi parce qu'il y a de l'échange, parce que les gamins se projettent, parce qu'ils se disent ok, lui il a fait ces compètes là quand il était gamin et aujourd'hui il est dans les meilleurs du monde. Donc je pense que ce truc là il est important pour nous, pour cet échange là qu'on a avec les plus jeunes et puis forcément pour le lien qu'on a avec les spectateurs parce que on sait qu'ils passent toujours un super moment.
Ouais. En tout cas, écoute, c'est cool et je suis content qu'on puisse mettre un petit peu en avant ce type d'événement. Et puis moi, ça me permet de te rencontrer aussi. Donc pour mon petit plaisir perso, c'est trop chouette. Qu'est-ce qu'on voit pas justement dans la partie entraînement de la perche? Le All-Star Perche, du coup, est sponsorisé par Puma. C'est comme ça qu'on se rend compte. Je sais que t'es équipé par Puma. Vous faites beaucoup de pistes. Quand c'est cet ADN attelé, on pourrait se dire ok, bon, vous allez faire beaucoup d'athlètes, mais on pourrait se dire aussi une fois que tu te spécialises, est-ce qu'il y a besoin d'en faire? Comment est-ce que tu répartis ton entraînement?
C'est vrai que souvent les gens pensent qu'on fait que de la perche.
Okay.
Moi je saute que deux fois par semaine à la perche.
Okay.
Et le reste du temps, si c'est de l'athlétisme, donc tu fais. Moi je fais beaucoup de travail de course. Okay. Ça dépend des périodes de la saison. Il y a des saisons où ça va plus être. Faire de la caisse, donc vraiment on fait des côtes, des séances qui font mal à la gueule pour vraiment pouvoir encaisser sur le reste de la saison. Et puis l'autre partie de saison, c'est vraiment plus du sprint, de la technique de course pure, du travail sur des plots, du travail sur des petites haies, du travail de haies même.
De la foulée, ouais.
Voilà, travail de la foulée, du gainage en course, voilà. Donc on a beaucoup de travail fin comme ça. J'ai deux grosses séances de muscu dans la semaine. Moi, c'est des muscu un peu particulières. Je fais quelques mouvements d'haltéro et je fais... pas mal de trucs en circuit training. Et ce qui est intéressant en fait à la perche surtout, c'est qu'on touche à tout. On est obligé d'être très complet parce qu'il y a toute une partie du saut, ça se passe au sol avec toute la course d'élan. Et puis l'autre partie du saut, c'est de la gym sur la perche avec le franchissement et tout ce truc-là qu'on doit caler sur les séances techniques de saut. Donc c'est ça qui est très chouette. Peut-être par rapport à d'autres, on va pas se lasser parce que notre entraînement, il est super diversifié. Et c'est vraiment de l'athlé pur, quoi. On est obligé d'être super complet, quoi.
Ok. Tu m'as dit juste avant de commencer que tu te verrais bien faire du demi-fond plus tard. C'est quoi tes séances préférées?
Voilà, les séances que je préfère, moi, c'est les séances de course. Clairement, j'adore les séances de sprint pur. Je pense que c'est clairement ma plus grosse qualité et j'axe beaucoup mon saut là-dessus. J'ai vachement d'informations par le sol. Quand mon saut il part bien, c'est quand ma course elle est bien.
Ok.
Donc j'adore le saut, j'adore la sensation du saut. Mais quand je peux pas courir, c'est tragique, quoi. Enfin, vraiment. Donc, je dirais vraiment que c'est la course. Et puis, j'avoue que j'ai un petit penchant que personne ne comprend. Mais moi, les séances de côte, les séances en début de saison, justement, qui font mal, en fait, je crois que je les adore.
Petit 10 fois 1000.
Parce qu'en fait, je pense que 400. Je suis résistante. j'ai fait longtemps des crosses. J'ai fait longtemps... Et je suis assez résistante. Et donc, en fait, ces séances-là... Je sais pas, je trouve que quand tu finis ces séances-là, que t'as mal partout et que t'es couché par terre, tu te dis « Ok, là je suis rincé, mais ça va forcément me servir pour la suite. » Parce que sur les autres séances, on travaille tellement techniquement, sur les séances de saut, tu finis pas parce que t'es à genoux, souvent tu finis parce que t'as tellement un trop plein d'informations que là tu peux plus quoi. Ouais, voilà. C'est t'arrêtes rarement, enfin si en principe t'es fatigué aussi, mais l'effort n'est pas le même. C'est pas pareil que quand t'as fait des 30-30, t'as fait 3 fois, 8 fois 30-30 et que tu t'es démonté la gueule, là t'es rincé et tu peux pas faire une course de plus quoi. Au fond, je sais que ce truc là j'aime bien, c'est un petit côté sadomaso, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais vraiment ce truc là.
Ouais.
Voilà, vraiment ce truc de. Mais peut-être ce qu'on disait tout à l'heure où je suis un peu perfectionniste et j'aimais bien à l'école être. Enfin voilà, la première machin, et je sais pas ce truc. Bah, j'ai vraiment. Ces séances là, je pourrais pas les faire sans. En partant normal. Parce qu'il y a des gens, ils les font, mais ils n'aiment pas trop ça. Donc, ils ne se font pas plus mal que ça. Moi, à chaque fois que je fais ces séances-là, je me démonte. Donc, au fond, je dois bien aimer un peu ça, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai que ça contrebalance bien avec les séances techniques où, d'un côté, ta séance technique, tu vas essayer d'être vachement à l'écoute de tes sensations, de ton corps, de voir comment ton corps se positionne dans l'espace et d'essayer d'emmagasiner, ouais, comme tu l'as dit très bien, toutes les sensations. Et de l'autre côté... Bah, faut les repousser, les sensations, quoi. Donc, faut fermer les écoutilles et s'en mettre plein la vue.
Et puis,
quoi.
C'est surtout que le jour J, finalement, tout ce travail qui a été fait en amont,
ouais.
Il se révèle, d'ailleurs, ou pas, des fois, alors que tu as tout mis en place pour une compète. En fait, nous, on s'entraîne toute l'année. On a des grosses phases de préparation pour une échéance, deux dans l'année. Là, par exemple, il y a les Europes en salle cet hiver et il y a les championnats du monde cet été. Donc, tu as des grosses phases d'entraînement pour finalement être au taquet sur une compète et il faut que tout se mette en place. Et là, on ne voit pas que tu as fait des 30-30, que tu as fait des côtes sous la pluie, que t'as tout ça, tu ne le vois pas, mais toi, tu le sais. Et au fond, je crois que moi, ça me permet de me sentir forte aussi. Ça me permet d'être costaud le jour J, de savoir que j'en ai pas bavé parce que je fais du saut à la perche et je fais pas du 800 mètres. Hein. 800 mètres, il vomit à la fin de chaque séance.
Ouais, ouais.
Clairement, moi, c'est pas ce que je vis. Je vomis que dans les côtes. Mais je vomis quand même. Et je sais pas, je trouve que voilà, tu t'es donné les moyens, le jour J, t'es plus fort. Parce que tu sais que t'as tout mis en œuvre pour être au taquet. Et puis bah, si ça passe pas, ça reste une compète d'un jour. Mais si ça passe, tu sais tout ce que t'as mis en place pour que ça arrive. Quoi.
C'est clair, c'est clair. Donc choix de l'équipement hyper important. Toi, t'es plutôt semelle plaque carbone, pas plaque carbone. T'as des préférences, t'as une foulée d'ailleurs, pronateur, supinateur, si on rentre un peu dans la technique de course.
Moi honnêtement, je choisis plus le modèle de chaussure par rapport à comment je me sens. Enfin, je fonctionne pas mal au feeling en fait. Et j'avoue que quand j'aime bien garder la même chose. Sur une saison, je change pas parce que c'est vrai que ça fait des modifs et je préfère garder les mêmes chaussures. Alors, je croyais que je voulais pas de carbone. Parce que j'ai eu des galères il y a 3 ans, un peu de tendinite.
Puis vous en as dans tes pointes, non ? En plus déjà de base.
Eh ben j'en ai dans mes pointes. Mais en fait, j'ai une paire de baskets que j'adore, dans laquelle je suis super bien, que je mettais depuis 6 mois et tout. Et je disais non, il n'y a pas de carbone dans mes baskets. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait du carbone dans mes baskets. Donc écoute, ça va faire 10 mois que je cours avec des baskets qui ont du carbone. Et ça va super bien. Donc, est-ce que j'ai une préférence ? Je pense que c'est plus un modèle plus que l'autre. Mais je fais vraiment par rapport à ce que je ressens, comment je me sens dans les chaussures et je pense pas avoir un truc fixe quoi. Ouais. Surtout qu'on change assez régulièrement parce que mine de rien on les use vite nos chaussures donc voilà. Et puis les pointes, moi ce que j'aime dans les pointes c'est qu'elles soient dynamiques, justement parce que comme je mets beaucoup sur la course et que je ressens très bien ce qui se passe, j'aime bien avoir des chaussures qui répondent bien, donc qui se rapprochent presque de chaussures qui sont comme du sprint, donc d'avoir un truc réactif quoi. Donc je pense que la plaque carbone, ça pour le coup c'est pas mal parce qu'on a un renvoi qui est intéressant quoi.
Ouais, mais surtout pour toi en plus vu que tu veux chercher à travailler la vitesse et minimiser peut-être le temps de contact au sol, il y a quelque chose d'hyper intéressant quoi. Je voulais te poser effectivement la question sur ta maternité parce que tu fais partie. Alors maintenant vous commencez à être plusieurs athlètes à faire cette aventure d'être maman pendant ta carrière. Tu me disais juste avant qu'on commence que ça t'avait permis vraiment de savoir ce que tu voulais et que t'étais sentir que t'étais vraiment passionnée parce qu'il y a eu un épisode un peu compliqué sur les jeux où t'as pas été prise. Là aujourd'hui, comment est-ce que t'arrives à concilier ta vie de maman et ta vie d'athlète de haut niveau?
Eh ben, je pense que comme depuis tout le temps finalement, je me suis bien organisée.
Ouais.
Et je suis pas toute seule.
Bien
on
sûr.
Est deux dans ce projet.
Il y a un super papa aussi.
Et ouais, c'est ça. Il y a un super papa qui gère derrière. Et puis, on n'est pas que deux parce qu'en fait, on est, c'est ce que je disais l'autre jour. En plus, en téléphonant à ma maman, je lui disais, en fait, on gère super bien tous les deux. Enfin, pas que tous les deux, parce qu'en fait, il y a tout le temps quelqu'un pour nous dépanner. Là, par exemple, tous les samedis, j'avais compète. Axel, il s'est reformé pour être coach de tennis. Donc, il est en DE tennis cette année. Donc, il a beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures de terrain. Et donc, il bosse le samedi. Parce que quand t'entraînes le tennis, tu bosses le week-end.
Bien sûr.
Donc, les samedis compètes, moi, j'ai fait un planning de mes compètes en décembre. Et on a dit, voilà. Donc, il y a ça de dispo. Vous êtes dispo quand ? Quel samedi, qui ? Et donc, en fait, on a une bande de copains incroyable. On a des parents super chouettes. Donc, en fait, c'est une aventure qu'on vit à deux, mais pas qu'à deux. Parce qu'en fait, sans toutes ces personnes, ça serait pas gérable, quoi, en fait. En tout cas sur les moments de compète, je veux dire, sur des moments de vie, du quotidien, de l'entraînement et tout, c'est très facile parce qu'en fait je le dépose à la crèche, je vais m'entraîner et après je fais ma journée. Axel il rentre le soir, le mardi par exemple c'est sa journée où il a demandé à être off parce que moi c'est un jour où je m'entraîne et j'entraîne des jeunes plus tard dans la soirée, donc c'est un jour où là il est là toute la journée.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Voilà, donc en fait, on a partagé le temps pour que tout tombe parfaitement avec lui et ça marche et ça roule, quoi, tout roule.
Ok, c'est cool. Alors, petite question un peu potin, forcément, ton chéri est perchiste. Il me semble qu'il était aussi chez Puma.
Ouais, il était chez Puma, ouais.
Et on en rigolait du coup avec mes copains chez Puma, c'est de savoir comment est-ce que vous étiez rencontrés. Parce que eux, ils cherchent à créer leur premier couple. Alors, je me suis dit, bon, là, ça tombait peut-être pas sur les dates, mais. S'il y a une petite histoire, je suis preneur.
Ah ben ouais, il y a une histoire. Ben en fait, on s'est rencontrés au championnat de France UNSS.
Ok.
Quand j'étais en quatrième.
Ah donc ça.
Ce premier championnat de France, parce qu'en fait l'hiver justement, j'avais fait 2-3 compètes, notamment une étape incontournable qui à l'époque c'était à Cercy-la-Tour dans la Nièvre.
Ok.
Et en fait où je l'ai croisé. Et donc à ce championnat de France qui est en juin de la même année, je lui ai dit à mes copines, je suis sûre que ce gars-là, je le connais. Je l'ai déjà vu, c'est sûr. Je suis super physionomiste. Donc, je dis, je suis sûr que je le connais. Il fait de la perche, je ne sais plus où je l'ai vu et tout. Ça me revient, je me dis, il est de Cercy-la-Tour, c'est sûr. Comme moi, je vais faire cette compète et que de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y avait que moi qui n'étais pas de là-bas, en fait. Que tous les gens étaient de Cercy-la-Tour. Non, en fait, il y avait des gens de partout en France. C'est juste que j'en savais rien. Donc, je vais le voir et je l'arrête avec sa bande de copains, qui d'ailleurs, toute la bande était à notre mariage. Donc, ça, c'est assez rigolo. Je vais le voir et je lui dis, t'es pas de Cercy-la-Tour ? Il me regarde, il se marre, il me dit ah, « je suis pas de Cercy-la-Tour ». Il fait le cake avec ses potes, un mec de quatrième. Quoi. Donc je pars, je me dis « merde, ok, mais je suis sûre que j'ai déjà vu et je pensais qu'il était de Cercy-la-Tour ». Bref. Et puis on se recroise parce qu'en fait, il se trouve qu'Axel, il a été le meilleur français de notre catégorie d'âge tous les ans. Donc en fait, on a refait plein de compètes ensemble, les championnats de France. J'étais championne de France, il était champion de France. On a fait des sélections ensemble. On a été très très longtemps copains. Et puis en stage, on était en première. Enfin, moi, je rentrais en terminale et lui rentrait dans sa deuxième première. Eh bien, on est sortis ensemble cet été-là. Donc, je ne sais plus quelle année c'était. Et puis voilà, on est sortis ensemble. Donc finalement, ça faisait un moment. On est sortis ensemble pendant 2 ans. Puis après, moi, j'ai décidé de faire mes études sur Clermont et lui, il est parti à l'INSEP. Donc la distance a fait que ça a été un peu compliqué à gérer. Et puis, on s'est retrouvés en 2016.
Ici, du coup ?
Eh ben non, parce que... Non, on s'est retrouvés, pareil, sur un stage. Et puis, voilà. Et puis, la vie a fait que c'était le bon moment pour tous les deux. Et pendant un an, en fait, il venait me voir. Parce que moi, là, c'est l'année où j'étais en master. J'avais beaucoup d'heures de cours. Donc, aucun moyen d'aller en région parisienne. Donc, du coup, en fait, il venait me voir. Il venait une semaine tous les 15 jours. Donc, il faisait 15 jours chez lui, une semaine ici. Donc, il s'est fait un peu de route.
Quelle belle histoire, en tout cas.
Et puis, c'est ça. Et puis, dans cette année-là, moi, j'ai mon coach de l'époque qui, en mars, décide d'arrêter. Parce que dans sa vie, ça n'allait plus. C'était très compliqué à gérer, l'entraînement, sa vie pro. Il n'était pas pro, du coup, donc c'était compliqué. Et il décide d'arrêter. Donc là, moi, il faut que je fasse un choix. On parlait tout à l'heure, il y a des choix qui font nos carrières, il y a des choix qui font nos vies aussi. Et là, c'est clairement un choix qui a fait basculer complètement ma vie. Il me reste deux mois avant d'être en vacances, puisque je suis étudiante, donc en mai, c'est fini. Et donc, en fait, je fais le choix de rejoindre Axel. Je finis mes partiels et je le rejoins. Donc, en mai, je me retrouve en région parisienne. Et dans cet été-là, après m'être entraînée avec eux pendant quelques semaines, je passe de 4,40 m à 4,60 m. Et là, moi, je cherchais des places pour aller le voir au championnat du monde de Londres. Et en fait, je me retrouve sélectionnée pour le championnat du monde de Londres. Et donc là, on retombe dans une nouvelle dimension. On est tous les deux. On vit la même passion au même moment. C'était des moments super, super chouettes, quoi. Donc voilà, c'est vraiment... là, ça fait partie des grosses décisions de ma vie parce que là, je change tout. Alors que ça fait 4 ans que je suis à Clermont, que ça roule plutôt bien et... j'ai aucun regret, parce qu'aujourd'hui, bah, comme tu disais, il y a un joli petit blond à la clé. Donc non, franchement, c'était des super choix.
Bon, écoute, trop belle histoire. J'adore, moi, ce genre d'histoire. Tu vois, je trouve ça trop beau. Ça me met des... J'en ai les larmes aux yeux, là. J'ai des petits papillons dans le ventre. Ce que je retiens, c'est que déjà, c'est toi qui l'as abordé en premier. Ça, faut le dire.
Attends, on est moderne, hein.
Bah ouais, écoute, je vois ça, mais c'est une surprise en surprise. Tu vois, et on dit souvent que derrière, c'est une phrase très masculine, on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais je pense que l'inverse marche très très bien aussi. Et vous deux, vous êtes bien, super bien trouvés, et il n'y a pas de l'un qui est plus grand que l'autre, c'est tous les deux, vous avez fait un super couple, quoi.
Ouais, je pense qu'on s'est tout le temps porté vers le haut, que tu vois, on a vécu des grands championnats ensemble. Et c'est pas toujours simple, le moment de la compète et de la grosse compète que t'as préparée. Et pour autant, on a toujours eu autant d'importance l'un que l'autre dans ce moment-là. On a toujours laissé la place à l'autre quand c'était son temps de compétition. Justement, à Londres, ce premier championnat, ça se passe super bien pour Axel qui finit 6e. Et moi, je ne passe pas en finale. Moi, j'étais dégoûtée, mais j'étais tellement contente pour lui. Et inversement, lui, il n'a pas laissé trop d'énergie, mais il était là pour moi. Et en même temps, il était à fond dans son truc. Et je pense que ça a toujours marché parce que déjà, on a toujours été très, très copains, lui et moi. Je pense que c'est clairement mon meilleur pote. Au-delà d'être mon amoureux, c'est mon meilleur pote. Et donc, il y a cette espèce de respect que tu as pour tes amis, où tu vas les laisser passer en premier dans les moments importants pour eux. Et en même temps, ils sont là quand c'est bien pour toi, quoi. Et je pense qu'il y a toujours eu, ce respect du travail de l'autre. Et encore aujourd'hui, moi, je suis super fière de ce qu'il fait, même si c'est plus autour d'un stade. Je suis super contente qu'il soit épanoui dans ce qu'il fait, quoi. Et je pense qu'il prend toujours autant de plaisir à venir voir de la perche et à vivre le truc à travers moi. Donc, je pense qu'on s'est toujours porté vers le haut. En tout cas, on a toujours été le soutien de l'autre dans les projets qu'on avait, quoi.
Ok. Mais écoute, ouais, non, c'est fantastique. Et je pense que c'est... Ça met en lumière à quel point c'est important dans une vie, je trouve, d'avoir un partenaire de vie qui te soutient, qui est positif pour toi. Souvent, quand tu le vis du bon côté de la chose, tu oublies que, tu vois, dans certaines relations, ça peut être beaucoup plus toxique, que, tu vois, c'est pas toujours aussi facile. Et je pense que tu l'as très bien dit, tu le rejoins, tes performances, elles se mettent à grandir tout d'un coup.
Parce que t'es bien. Et je pense que... Et c'était pareil en faisant le choix de faire un bébé, tu vois. Moi, je me suis dit, en fait, le bonheur, tu le remets pas demain. Enfin, ce qui peut te rendre heureux et ce qui peut te rendre fort, ça peut pas attendre. Si c'est au plus profond de toi, ça va forcément te donner une force immense. Et moi, j'ai vécu des choses dans la vie qui me font dire que tu peux pas remettre le bonheur au lendemain, quoi. Enfin, il faut vivre à 200%. Et...
Mais écoute, trop bien. Écoute, franchement, je te félicite de pas avoir, tu vois, mis de côté cette envie-là et d'avoir vu... tous les deux d'avoir vécu votre amour à 100%. Est-ce que d'un point de vue sportif, je peux te demander justement comment t'as fait pour essayer de revenir au plus vite? Comme tu l'as dit, il y avait ce projet Tokyo qui t'animait et qui voulait que...
Je sois prêt tôt, quoi.
Ouais, qui vraiment t'a poussé à donner la meilleure version de toi-même dans ton retour. Comme je te le disais en intro, j'en ai beaucoup parlé avec Anaïs Chevalier, Boucher, avec Mélina. Je sais de leur voix que ça n'a pas toujours été facile de trouver les bons conseils, de bien s'entourer aussi avec des gens qui sont positifs et qui te disent « Mais si, c'est possible, bien sûr que... Et tu vas y arriver, enfin, t'as pas le choix, en fait. » Comment ça s'est passé pour toi? Comment, j'imagine que tu l'as anticipé aussi, dès le début?
En fait, déjà... Le fait que ce projet, il est tombé aussi pendant la pandémie. Donc, c'était vraiment une espèce de parenthèse. Donc, ça, déjà, je pense que ça m'a protégé un peu de ce phénomène où il n'y avait plus trop d'accès au stade, il n'y avait plus les compétitions, c'était particulier. Donc, déjà, il y a eu ça qui fait que c'était un moment un peu suspendu. Et puis, j'ai eu la chance. Enfin, moi, mon coach, c'est un pote. Le coach qui me fait la prépa physique, c'est Manu, c'est le papa d'Axel. Donc, honnêtement, quand j'ai... Déjà, il savait. qu'on avait ce désir d'avoir des enfants. Ils savaient qu'à un moment, ça arriverait dans ma carrière parce que je ne voulais pas attendre... Parce que j'aime tellement ce que je fais, je me vois tellement le faire longtemps. Je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas attendre d'avoir 40 ans pour avoir mon premier enfant. Parce que s'il faut, je vais sauter jusqu'à 40 ans. Enfin, voilà. Donc, en fait, en me projetant comme ça, je savais que c'est un moment qui arriverait, oui, dans ma carrière. Donc, ils étaient préparés parce qu'ils savaient que ça arriverait un jour. Et en fait, quand je leur ai annoncé, ils étaient trop contents. Ils étaient super contents pour moi. Donc déjà, quand tu es entouré par des gens qui vivent le truc, comme tu dis, en se disant, ça va le faire. OK, on n'a jamais fait ça, c'est un nouveau défi. Nous, on a une athlète, là, elle est enceinte. Dans 6 mois, enfin 6 mois après son accouchement, il faut qu'elle saute en compète. OK. Alors, en se disant que la priorité, c'était la bienveillance, c'était que mon corps aille bien, c'était que je ne me blesse pas, que le bébé soit en bonne santé. Donc voilà, j'étais quand même dans une bulle et de bien protéger le truc quand même. J'ai eu la chance d'avoir une grossesse parfaite. J'ai pas été malade au début. Si j'ai d'autres enfants, je souhaite avoir la même grossesse que j'ai eue là. Je sais bien que c'est pas toujours le cas.
Après, parmi les athlètes de haut niveau, j'ai l'impression quand même. Peut-être que je vais dire une bêtise.
Peut-être parce qu'on est très actifs, peut-être qu'on s'écoute beaucoup, on se connaît finalement très très bien. Je pense que le fait de se connaître aussi, ça aide beaucoup.
Que ce soit Charline, Mélina, Anaïs, Cléopâtre, elles m'ont toutes dit « ça s'est super bien passé ».
Et moi, c'est vrai qu'on s'est vachement centré autour de moi. Et je ressens tellement bien les choses, mais que ce soit sur le stade ou finalement dans mon corps, moi, j'ai jamais eu de blessure. C'était le premier arrêt de ma carrière.
Ok.
Donc ça, c'était, tu vois, pour le coup, ça, c'était pas facile à gérer. Et finalement, ça n'a pas été un arrêt du tout, parce que je me suis entraînée tout le temps.
Ouais.
J'ai juste pas sauté à la perche. Comme je savais que je voulais un bébé, j'ai pas sauté du tout enceinte. Et du coup, voilà, j'ai adapté les muscles. Et j'ai couru super longtemps, j'ai couru jusqu'à 6 mois de grossesse. Et dès que la course a été un peu trop violente, j'ai nagé. Mon coach, Manu, justement, il venait nager avec moi. Alors lui, il adore nager, donc ça allait. Moi, au début, j'étais une daube. C'était franchement... Lormanodou, mourir. Là, j'ai déjà fait 12 longueurs, t'en as pas fait une. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai pu continuer à bien m'entraîner et à me faire vraiment mal. Parce que dans l'eau, t'as pas d'impact. Je pouvais faire monter quand même un peu le cœur. Et finalement, je me suis prise au jeu. J'ai vraiment aimé ça. Et je faisais des muscles douces, voilà. Contrairement à plein de sportives, moi, je me suis pas fait suivre par des gens qui étaient autour du sport. C'était presque volontaire. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai envie de gérer aussi le truc par moi-même. J'avais une super gynéco qui était spécialisée dans les grossesses à risque. Donc en fait, qui m'a suivie, elle n'y a jamais eu de soucis. Donc elle, finalement, elle n'a pas trop de boulot à faire. Et même, justement, c'est des gens...
En préventif, elle était sûrement de bons conseils.
Qui m'ont encouragée. Même ma sage-femme, c'était des nanas qui avaient une philosophie. Ils disaient, mais en fait, moi, mon but, c'est que les femmes ne changent pas leur quotidien, ne changent pas leur vie. Une grossesse, ce n'est pas une maladie. Si tout va bien... continuez à vivre normalement. Et elle dit, vous êtes athlète de haut niveau. Donc le niveau d'exigence que vous avez, il est forcément pas le même que celui d'une femme qui court un petit peu. Donc elle dit, je peux pas vous dire, vous allez vous mettre dans votre canapé, vous n'allez plus bouger. Elle dit, ça n'aurait pas de sens. Bien sûr qu'il faut abaisser le degré d'intensité de votre pratique, mais il faut pas ne plus pratiquer du tout. Et du coup, en fait, j'ai été entourée par ça. Les gens de mon club, mon sponsor, même la fédération à ce moment-là, tout le monde m'a dit, OK, c'est très bien, c'est ton projet. On félicite les mecs, toi on va te féliciter, bravo. Continue, fais ce que tu peux pour être la meilleure possible, prends soin de toi, et puis fonce. Et donc en fait, ce projet, il a été super bien accueilli. Ça m'a permis, je pense encore plus, d'être bien. J'ai une maman qui a eu 3 enfants, qui a tout le temps été très active. Et donc finalement, aussi le schéma que j'avais de la maternité, peut-être qu'il y a des nanas qui ont vécu le truc différemment et qui ont très peur de la grossesse parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences. Moi, c'est vrai qu'il y avait de beaux exemples autour de moi et du coup, j'étais très rassurée à ce niveau-là. Et voilà, et donc j'ai eu un suivi très bon, j'ai été super bien accompagnée par mes coachs. Donc voilà, il n'y avait rien à dire, quoi. Allez, on y va et c'est parti. Bien sûr. Et donc j'accouche en février, j'accouche le 14 février 2021.
Et tu ressautes ?
Et je ressaute en compétition tout début juin.
Ok. Ouais.
Donc j'ai ressauté à la perche 3 mois après ça. Parce que la première compète, ça faisait 1 mois que je sautais.
Ouais.
Donc j'ai ressauté en mai.
Waouh.
Et en fait, au début, j'étais très frustrée de ce que je faisais. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, je faisais du tri dans mon téléphone. Et j'ai regardé ça, ces séances, tout ce que j'ai fait. Et je me suis dit, non, mais en fait, si cette nana-là, je l'avais suivie sur les réseaux sociaux, si j'avais pas été moi, à ce moment-là, en fait, j'aurais été épatée. Je me serais dit, mais punaise, cette nana, elle en veut, quoi. Elle aime ce qu'elle fait, elle en veut. Et c'est réellement ce que, moi, de l'autre côté, je ressentais. J'adorais ce que je faisais, j'étais animée par une chose, c'était reprendre une perche. Parce que, avec le Covid, j'ai fait, du coup, depuis février de l'année de 2020, j'avais pas sauté à la perche quand j'ai ressauté en mai. Donc ça faisait plus d'un an que j'avais pas sauté à la perche et j'attendais que ça en fait. Et là, ça, ce que je te disais tout à l'heure, ça remet l'essentiel en avant parce que j'avais tellement tout le temps sauté à la perche, ça faisait un moment que je pratiquais en plus à très haut niveau. Donc bah, t'as tout le temps une compète, une compète, une compète, une compète. Un autre objectif. Et t'as jamais le temps de te poser. Et là, en fait, bah, c'était évident en fait, j'avais envie de sauter à la perche. C'était ça que je voulais faire et je voulais pas m'arrêter. Alors qu'à ce moment-là, tu vois, Axel était en train de basculer sur « j'ai envie d'autre chose et je vais m'arrêter ». Et ça me fait plus vibrer. Et moi, dans l'autre sens, c'était « en fait, moi, ça me fait toujours la même émotion et je suis pas prêt d'arrêter, quoi ».
Ok. Bon, écoute, j'adore t'écouter sur ces sujets-là. Je vois qu'il y a des étoiles dans les yeux. Et non, mais c'est un sujet passionnant. Et tu vois, je suis content de donner la parole là-dessus parce que on n'en parle pas assez. Et je pense qu'on peut voir une petite ligne dans les médias, sur des petits articles ou dans des petites vidéos. Mais prendre le temps de, voilà, d'expliquer comment toi t'as fait, je trouve que ça devient concret et ça permet de se dire, ouais, en fait, c'est carrément possible. Et voici ce que Ninon a mis en place, tu vois. Donc pourquoi pas moi, quoi. Donc,
Bah, je pense que le plus beau truc qu'on m'ait dit vraiment, c'est ouais, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est pas une blessure.
Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et,
en fait, bah oui, c'est pas une blessure. Tu t'es arrêté, mais ton corps, si tu l'as pas arrêté, il a continué d'être fort, en fait.
Bien sûr. Et tu sais qu'il y a eu plein d'études qui ont été faites justement sur des athlètes qui pratiquaient des sports d'endurance. Et que, en fait, après leur grossesse, il y a une augmentation de la VO2 max, il y a une augmentation du nombre de globules rouges dans le sang. Et du coup, en fait, toutes les athlètes d'endurance, bah, elles te disent, en fait, c'est même
un accélérateur de...
C'est presque un produit dopant, tu vois, parce que c'est, tu fais vraiment un plein de globules rouges, quoi. Donc,
et puis, je pense qu'au-delà de ça, ça te transforme quand même. Parce que... tu vois, il n'y a pas longtemps, bah justement, mes concurrentes étrangères que je croise sur les compètes, elles adorent me parler de ça. Et elles me disent, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Enfin, au-delà de juste ta pratique, déjà, enfin, moi, j'étais déjà très peu stressée. Je suis tellement dans l'amusement et dans le kiff que le stress prend jamais le pas sur le reste. Je me dis que si je suis 100% là, je vais être performante. Alors que si je suis prise par le stress, je vais pas être à 100%. Tu vois, donc le fait, déjà, cette gestion des émotions, je l'avais déjà.
Qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes ? C'est quoi le conseil que tu donnerais justement à une athlète, une perchiste, peu importe justement, qui a envie, tu vois, d'avoir un enfant et qui hésite à cause de sa carrière sportive ?
Ben, je lui dirais que si l'envie, à ce moment-là, elle est plus forte que tout, il faut y aller. Si tu sens que non et que tu vas pas t'organiser pour... t'as des enfants, il y a plein de gens qui ont des enfants, c'est pas simple tous les jours. Il y a un an, là il est plus grand, moi mon fils il a eu 2 ans, donc le coucher, tout ça, ça va, mais sauf qu'un bébé qui est malade la veille de la compète, bah, tu le berces pendant une heure et tu dis, les autres là, ils sont juste devant Netflix, couchés dans leur lit et ils sont en train de faire du jus, et toi tu sais que t'es debout pendant une heure à bercer un truc qui fait déjà 10 kilos, non mais tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr, bien sûr, mais ça leur donne pas envie.
Non, mais c'est pour ça, je dirais que si ça compte plus que tout et que c'est le moment, il faut y aller, il faut pas se poser la question, parce que c'est forcément du bonheur en plus, c'est forcément une force en plus et ce sera une source de motivation en plus. Par contre, si c'est juste une envie et qu'on n'est pas prêt à mettre tout ce qu'il faut en place pour que tout roule, il faut pas le faire, parce que ça peut être un frein aussi. Il faut pouvoir, moi je peux partir en stage pendant 20 jours parce que je sais que Axel il va gérer quand je suis pas là, que ma mère elle est prof, elle est en vacances à ce moment-là, enfin voilà, je cale toujours mes périodes de stage pour être sûr qu'il puisse être gardé, t'as moins d'insouciance. Tu peux pas partir non plus à l'arrache.
Ça devient la priorité,
voilà,
en fait.
Ça devient quand même ta priorité.
Si t'as d'autres projets, t'as une vie.
Mais je pense que ça te rend, et c'est ce que je disais, ce que je voulais dire tout à l'heure, ça te rend plus efficace à ce que tu fais. Moi, j'ai l'impression d'être, quand le moment il m'appartient, donc que ce soit juste le petit entraînement, ou peut-être avant, tu disais, ouais, aujourd'hui un peu la flemme. Bah, je trouve que ce truc-là, je l'ai beaucoup moins et que je suis hyper présente quand je suis à ce que je fais. Parce que c'est un moment qui m'appartient et parce qu'à ce moment-là, je peux me donner à 200%. Quoi.
Ouais, c'est ça ta source de motivation supplémentaire.
Ouais, et je trouve que t'es plus là.
Ouais.
Tu vois, je sais pas comment l'exprimer. Et je sais pas, tes objectifs, ils sont plus forts. T'as envie que ça marche. Moi, c'était un pari. Je pense qu'il y a une partie du contrat qui est remplie. Et maintenant, j'en ai une autre, c'est que j'aimerais vraiment revenir à mon niveau. Ça, c'est ça qui est compliqué en ce moment pour moi. Parce que physiquement, dans l'engagement, dans tout, j'ai tout retrouvé. Aujourd'hui, je pense que si je faisais du sprint, j'irais aussi vite qu'avant. Mais je fais de la perche. Et donc, il y a tous les réglages qui vont avec, toute l'approche, le saut, ce que tu disais, les repères dans l'espace. Et tout ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore tout à fait chopé. Et donc, je n'ai pas retrouvé des hauteurs qui étaient régulières pour moi, autour de 4,60 m et plus. Et pour l'instant...
Ça va venir.
J'ai le petit suspens, tu vois, d'impatience, où je sais, c'est bon. Ok, là, je suis forte. Je suis la même personne qu'avant, même avec des qualités en plus, parce que j'ai tellement bossé pour revenir que je pense qu'il y a des domaines dans lesquels je suis vraiment beaucoup plus forte. Parce que j'ai rien laissé au hasard, parce que j'ai fait plus de gainage, plus d'abdos, plus de... Pour revenir, tu refais beaucoup plus de choses, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même cette forme d'impatience de se dire, allez, là, je veux me prouver. Parce que je ne suis pas dans le délire de prouver à qui que ce soit que mon pari,
bien sûr,
il valait quelque chose. En même temps, l'année dernière, je finis 11e des championnats du monde.
Ouais.
Oscar, il avait un an et demi et j'étais à Eugene. Donc, je me dis que finalement,
c'est ce que j'avais envie de te dire quand même. Tu vois,
on dit qu'il y a des moments où ça va moins bien. Et l'année dernière, il y avait clairement un moment où ça allait moins bien. Et où je me disais, ouais, mais en fait... J'ai bien bossé, mais ça suffit pas. Ça a pas encore marché. Ça a pas marché. J'ai arrêté. Je suis très heureuse. J'ai aucun regret d'avoir eu ce petit loup et c'est un bonheur en plus dans ma vie. Mais j'ai pas réussi encore. Ce que je veux, j'ai pas réussi. Et Axel, il m'a dit, mais Ninon, si t'as besoin de quoi pour valider? Il m'a dit, là, tu sautes autour de 4,50 m. T'as déjà retrouvé le très haut niveau. Si toi, ce qu'il te faut pour savoir que c'est bon, c'est de faire du très haut niveau, là, tu fais du très haut niveau. Ton niveau, tu l'as pas encore, mais la première phase, elle est là. Et je crois que d'avoir ces mots et de me dire, ouais, en fait, c'est vrai. Je peux déjà être fière de moi parce que, et tu vois, c'était ça le problème. J'avais pas retrouvé cette fierté de, je l'ai fait. Et là, je sais qu'en ce moment, je suis dans l'attente de ça. Parce que je sais que je suis performante, je sais qu'il y a tout pour que ce soit super bien. Et il manque la perf, comme si j'avais besoin que la perf vienne valider tout ce que j'ai fait. En même temps, on est athlète et la perf valide ce qu'on fait. Donc, à un moment donné, moi, j'ai besoin de ça aussi pour me dire, ouais, ça y est, quoi. Mais je sais que ça va arriver bientôt et qu'il faut que je patiente encore un peu. Mais sur tout le reste, sur tout le boulot, sur tout ce qui a été fait et sur tout ce que je vis, je suis super épanouie, je suis super heureuse et j'ai aucun regret d'avoir fait ça parce que c'était le désir le plus grand que j'avais à ce moment-là. Et puis, ça rapporte une fraîcheur. Enfin, c'est trop de bonheur, quoi.
Bah ça, je confirme. C'est hyper intéressant ce que tu dis et on sent que tu vois, t'es déterminé. Ta parole s'est un peu durcie au moment où tu dis je veux l'avoir. Et je rencontrais récemment un grand préparateur mental qui s'appelle Pierre David et qui a un grand motto, c'est peu importe qui tu es, ce qui compte c'est qui t'as envie de devenir. Et je trouve que tu l'incarnes aussi un peu dans ces paroles-là de je vais continuer et je vais l'avoir bientôt. Donc, écoute, passionnant. Je sais que tu as un shooting et qu'on vient de déborder le temps, donc il faut que je te libère. On va se faire gronder, surtout que moi je vais me faire gronder. En plus, on a fermé la porte, on t'a kidnappé. Il y a une toute dernière question. J'aurais bien parlé de parentalité pendant des heures et des heures, mais il y a une dernière question qu'on pose. C'est comme un passage de flambeau olympique, c'est un passage de micro olympique, je l'espère, il le sera, à moi aussi les JO. C'est de savoir quel est l'athlète homme, femme, ou les deux, tiens d'ailleurs, que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler passion, pour parler athlée, pour parler parentalité aussi, ou parler de plein d'autres choses, tu vois, juste quelqu'un qui t'aimerait donner la parole et une petite question qu'on pourrait lui poser aussi au passage.
Ben, comme là, on a parlé vachement de choix, de parcours qui sont pas toujours simples et de toute cette gestion-là, un peu de la compétition et des objectifs. Moi, je pense à Nawal Meniker, qui fait du saut en hauteur, qui a été très forte très très jeune et qui a eu une grosse période très galère et je pense qu'elle s'est demandé des fois si elle allait pas arrêter. Et je disais justement que elle a toujours eu ce qu'on disait là tout de suite, cette petite flamme de allez, je vais m'accrocher à cette petite flamme qui brille toujours et je vais y aller. Je pense que Nawal, elle a des belles choses à vous dire et elle vient d'éclater son record en faisant 1,92 m. Elle sera de la partie au championnat d'Europe là cet hiver là, dans une semaine d'ailleurs, punaise. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller voir Nawal.
Bah écoute, ouais, j'ai redécouvert la semaine dernière au championnat de France sur le super finish qu'elles ont
ouais,
pu
faire.
Ouais, c'était
super leur finale avec Solène. Ouais.
Exactement. Donc écoute, merci pour la recommandation et ça serait avec grand, grand plaisir. Écoute, j'ai passé un trop bon moment. J'espère qu'on se reverra. Je t'envoie toutes mes bonnes ondes et je vais toucher du bois pour Paris et pour les prochaines compètes qui arrivent. Il y a un gros, gros programme. J'encourage tous les auditeurs à venir t'envoyer plein de love et plein de bonnes vibes sur les réseaux ou partout si on te croise. Et puis, comme on dit chez moi, à bientôt parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
À bientôt. Merci beaucoup. C'était super chouette pour moi.
Salut Ninon, à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !